se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Eh bien, ça y est, nous y sommes. Nous sommes le samedi 23 mai 2020. Et évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. Quel plaisir de passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h. Votre week-end des experts. On sera là demain aussi. Demain entre 6 et 7 avec De quoi je me mail et 7h, 10h, 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. Mais en ce samedi, bien évidemment, tout à l'heure, Raphaël Grabrilli sera là entre 9h et 10h pour la vie numérique. On vous aidera à choisir votre nouveau smartphone. Quelles sont les nouveautés de ce printemps? On verra ça. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Un journaliste de 01net.com sera là pour nous aider. On retrouvera aussi Christian Ricca, notre médecin, entre 8h et 9h. On saura tout sur le rein. Quelle est la fonction du rein? À quoi sert-il? Et puis, surtout, comment, par exemple, essayer de prévenir les maladies liées au rein? Ce sera donc avec Christian tout à l'heure. Un spécial Véranda entre 7 et 8 avec Christian PC dans notre rendez-vous maison, bien évidemment.
Et pour... Un peu jardin aussi.
Oui, c'est un peu jardin. C'est vrai que de temps en temps, il marche un peu sur vos plates-bandes. C'est ce qu'elle veut dire. Et pour débuter, vous le savez, il est là, 6h, 7h, c'est notre expert jardin et c'est Patrick Mulan, monsieur Miu-Miu.
Monsieur François, bonjour, bonjour à tous, très très bienvenue dans nos jardins qui se portent très bien, à condition de les arroser un peu.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça, il faut les arroser parce qu'on a eu des températures élevées cette semaine.
Très 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 élevées, nous on a arrosé le jardin, oui, tous les deux jours.
Tous les deux jours. Oui. Est-ce que ça va durer? On verra ça tout à l'heure avec la météo du jardinier.
Alors moins chaud, mais beau.
Moins chaud, d'accord.
Bah, petit à petit, ça va remonter.
Ça va remonter tout à l'heure. Petit à petit, tout au long de la semaine. Les coups de cœur de la semaine de Patrick. Connaître et cultiver les plantes mellifères. D'autant plus indispensable qu'on a besoin vraiment de créer des écosystèmes comme ça dans notre jardin.
Exactement. On verra que c'est bientôt la semaine des fleurs, justement, pour les abeilles.
La semaine des fleurs pour les abeilles.
Oui, c'est des opérations qui justement stimulent le public pour lui dire voilà, c'est important de mettre des fleurs qui attirent les abeilles dans nos jardins.
Parfait. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler au 3216, l'appli RMC Direct Studio. Vous le savez, vous pouvez nous joindre à tout moment. Patrick, on va retrouver vos questions dans un instant au 3216, hein, vous le savez, vous pouvez nous joindre. Mais pour débuter ce week-end des experts, eh bien, c'est notre conseil de ce samedi matin.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Il y a du brouhaha dans le potager, ohé. Il y a du brouhaha dans le potager, yeah.
Il y a du brouhaha dans le potager, ohé. Il y a du brouhaha dans le potager, yeah.
Bon, voilà, vous l'avez compris, une petite musique bien sympathique pour annoncer notre sujet de ce samedi matin. Comment faire un carré potager et pourquoi, Patrick, tiens?
Alors, en fait... Il faut déjà savoir ce qu'est un carré potager. Et surtout, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est que pendant toute la période de confinement, où beaucoup d'entre vous, et tant mieux, ont redécouvert, on va dire, les joies, les plaisirs du jardin, eh bien, c'est le potager qui a été le grand gagnant. Mmh. Parce que on a envie de produire des légumes dont on a suivi tout le déroulement, et puis c'est vrai qu'on peut les récolter au top moment, on va avoir vraiment ce plaisir-là, puis bon, maintenant, même si on dit encore il y a les distanciations sociales, comme on dit, le fait de partager quand même avec la famille ou des amis
et oui,
ses propres légumes, c'est quelque chose de très valorisant. Alors, pourquoi le faire en carré?
Eh bien voilà, c'est ça. Et puis, comment est née l'idée de ce potager en carré?
Alors en fait, c'est une idée vraiment, comme toutes les très grandes idées, qui sont parties d'un constat extrêmement simple. En 1980, on est aux États-Unis, un ingénieur américain qui s'appelle Mel Bartholomew se pose une question toute bête. Pourquoi calquer un potager familial sur l'agriculture basique, c'est-à-dire que vous savez, tout le monde faisait toujours des potagers en rang d'oignons sur une grande surface, etc. Oui. Et puis il se dit, à quoi peut bien servir pour une famille de 4 personnes comme il avait, par exemple, une rangée de 30 ou 40 salades qui arrivent toutes au même moment, et vous en avez, ou par exemple, vous avez fait 20 mètres de haricots verts, et tous les jours, il faut récolter des haricots, et puis vous en mangez sans arrêt, et vous en avez ras-le-bol, etc. Donc, il se dit, pourquoi aussi cultiver des grandes superficies dans lesquelles les légumes n'occupent qu'une petite partie? Parce que quand vous faites un potager traditionnel, vous avez l'espace entre les légumes, mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'espace entre les rangs, c'est-à-dire que la distanciation, pas sociale cette fois, mais naturelle, pour que la plante puisse se développer normalement, qui fait que, si vous regardez bien, vous occupez qu'une toute petite partie du terrain, et que le reste, en général, c'est occupé par la végétation sauvage, qu'il faut éliminer en permanence pour pouvoir privilégier ces légumes. Donc il se dit, la méthode conventionnelle n'est pas la bonne, et donc il y a moyen, certainement, d'inventer ça, et il va inventer donc le potager en carré. Alors, quand on dit en carré, il y a un S à carré, et ça, c'est important.
Alors, en quoi consiste cette technique de potager en carré? Comment ça fonctionne?
Eh bien, en fait, lui, il se dit, il suffit de prendre un carré de 1,20 m de côté et de le diviser en cases de 30 cm de côté, donc on obtient 16 emplacements. Ça a été évolué en France par une personne qui s'appelle Anne-Marie, je vais retrouver son nom parce que c'est important, c'est elle qui fait ça aujourd'hui. Elle s'appelle Anne-Marie Nagelesen.
D'accord.
J'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui s'est dit 30 cm, ce n'est pas beaucoup. Vaudrait mieux passer à 40, et je pense qu'elle a raison. Mais l'idée, c'est donc d'obtenir ces 16 carrés. Et pourquoi à la fois ces 16 carrés? C'est pour que, lorsque vous avez la possibilité de tourner autour du carré, à aucun moment, vous ne pouvez pas accéder au centre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas aller piétiner à l'intérieur du carré, et même, pourquoi pas, sur un balcon ou sur une terrasse, eh bien de le surélever carrément, ce qui permet l'accessibilité à des personnes qui sont en mobilité réduite, par exemple. Ça, c'est important. Et donc, l'idée, elle est d'on va optimiser les carrés et se dire que c'est une unité de base pour la culture. Donc, par exemple, une plante qui n'est pas très large, comme un piment, par exemple, ou une aubergine, un carré. Quand vous prenez une grande plante, style un melon ou une courgette, c'est tout le carré, c'est le 1,20 m de côté qu'il va utiliser, parce que ça couvre plus d'un mètre carré de surface. Mais, par exemple, sur les tout petites choses, comme les carottes, vous allez pouvoir mettre une vingtaine de carottes à l'intérieur. Donc l'idée aussi de Mel Bartholomew, c'est d'économiser la semence. C'est-à-dire se dire, je ne vais pas balancer des graines sur 15 mètres de long dont je vais en enlever la moitié. Non, on va prendre graine par graine, et si on me dit, il y a la place ici pour mettre 25 carottes par exemple, eh ben, je vais planter mes petites 25 graines bien à l'emplacement, elles vont germer là. Je n'irai pas à les démarrer, je ne vais pas gâcher de la semence.
On est passé de l'approximation à la chirurgie, quoi.
Oui, et puis surtout, dans une idée, en 80, on n'était pas dans une période comme aujourd'hui de limitation des déchets, de faire attention au gaspillage, etc. C'était la grande période où allons-y. Et là, l'idée, elle était très très novatrice, et aujourd'hui, elle est particulièrement bien positionnée.
Alors, quels sont les avantages de cette technique, Patrick?
Alors déjà, au niveau de la surface, comme on disait, on va pratiquement, sur 5 fois moins de surface, réussir à obtenir une récolte similaire. Il n'y a pas de place perdue. Donc vous pouvez faire un vrai potager, avec une production correcte, pour une petite famille, sur un espace de terrasse. Peu importe aussi la qualité de base de votre jardin, parce que l'idée, c'est de surélever quand même votre carré, le délimiter avec des planches au moins sur 20 cm de hauteur, et sur ces 20 cm, vous allez apporter la terre, le terreau, le mélange terreux qu'il faut, du compost, etc. Mmh. Et donc, vous allez optimiser la production. Allez économiser de l'eau puisque vous n'allez arroser que les parties qui sont cultivées. Quand vous avez un grand potager, eh bien vous arrosez aussi bien les espaces entre les plantes que les plantes elles-mêmes, à moins d'utiliser ce que je vous conseille souvent, à savoir des tuyaux microporeux. Je vous ai déjà dit précédemment qu'on utilisait moins de graines, qu'on n'éclaircissait pas, ça c'est très très bien. Et puis, l'idée donc de pouvoir accéder partout va vous éviter de piétiner votre carré potager, vous n'aurez pas d'année en année à prendre la bêche et retourner à faire un gros travail de façon culturelle, comme on dit. Et ça, vous économisez alors, des efforts, c'est sûr, mais surtout, vous allez améliorer la qualité intrinsèque du sol, puisqu'on aura juste à le griffer pour pouvoir remettre une culture. Pourquoi et évidemment, évidemment, une chose importante, comme vous avez resserré votre culture, bah vous y passez beaucoup moins de temps.
Et oui, bien sûr.
Le fait de l'avoir surélevé aussi, vous vous pliez moins le dos. Si vous l'avez réellement surélevé, vous l'avez à disposition et à chaque fois que vous rentrez chez vous, bah vite fait, vous jetez un coup d'œil sur le carré et s'il y a trois mauvaises herbes à enlever, bah vous en avez pour deux secondes et puis c'est fait. Donc tout ça, c'est très très bien avec l'idée aussi que c'est accessible à tous. Je l'ai déjà dit, possibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais si vous êtes un petit peu âgé, que vous avez mal au dos, et bien écoutez, vous avez la possibilité de l'éviter, et puis vous allez pouvoir initier facilement vos enfants à cette technique, parce qu'ils vont adorer pouvoir jardiner sur ces petits espaces.
Donc tout le monde peut se lancer, en fait, finalement, hein, dans la réalisation d'un potager en carré.
Tout à fait, parce que la motivation numéro un, c'est pas l'idée de produire comme si vous étiez agriculteur, non, c'est de se faire plaisir, c'est de retrouver la proximité du végétal, la possibilité d'observer aussi les plantes, et puis de les récolter avec le faire soi-même. Ça, c'est quand même le truc le plus valorisant. Ça, c'est ma carotte, je l'ai produite moi-même.
Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de l'évolution, en fait, de la dimension de ce carré. Est-ce qu'il peut être malgré tout variable, Patrick ?
Alors, variable, je vous dis, c'est quand même une technique qui existe depuis longtemps. Et Anne-Marie Nagelesen, elle a créé cette méthode à la française il y a bien une vingtaine d'années, largement hein, maintenant. Et je pense qu'elle est dans la raison. C'est-à-dire qu'il est plus facile et plus logique de cultiver dans un carré de 40 cm que de 30, parce que dans 30, vous êtes quand même très serré.
Oui, c'est ce que vous dites.
Et le problème, c'est que si vous serrez trop les légumes, vous ne leur permettez pas un développement
oui,
optimal.
De bien s'épanouir, bien sûr.
Et autre chose aussi, la promiscuité, elle est la même pour les légumes que pour nous avec le coronavirus. C'est que les risques de propagation des maladies sont beaucoup plus grands. Donc si vous avez suffisamment espacé vos légumes, vous allez permettre la circulation de l'air et un certain assainissement naturel par l'aération. Ce qui n'est pas le cas lorsque les feuilles se touchent les unes les autres
et
quand il pleut, eh bien vous avez une stagnation d'eau et qui est favorable à la germination des spores de maladies.
Est-ce qu'il est possible de cultiver tous les légumes avec cette technique de potager en carré ?
Alors oui, alors bon, ça dépend l'espace dont vous disposez. Parce que quand je parle de potager en carré, je vous rappelle donc qu'on est passé sur des bases unitaires. Donc si vous faites un potager en carré de 1,20 m ou de 1,60 m par 1,60 m, vous allez avoir un espace. Mais vous pouvez faire plein d'espaces les uns à côté des autres en fonction de la quantité à produire et surtout des plantes que vous voulez produire. Par exemple, un artichaut, ça prend de la place quand même. Ça va vous prendre quasiment un carré entier. Quand je dis un carré, c'est pas une subdivision du carré, c'est tout le carré. Donc dans un carré de 30 ou 40 cm, donc dans une unité, vous pouvez mettre une aubergine, vous pouvez mettre un chou, vous pouvez mettre un concombre à condition de le palisser verticalement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, dans le même carré, vous pouvez mettre trois scaroles, par exemple. Vous pouvez mettre trois plants de petits pois. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre trois plants de petits pois dans un carré ? Parce que vous allez récolter une poignée ou deux poignées de petits pois. Ça dépend ce que vous voulez en faire, mais l'idée, c'est quand même de voir comment tout ça, ça pousse. Mais vous pouvez arriver jusqu'à, on va dire, sur un carré, une quinzaine de carottes, 25 plants de mâche, une vingtaine de radis, sur un petit carré. Donc vous pouvez avoir sur votre carré de base de 1m20 ou d'1m60 un ensemble de légumes comme un vrai petit potager.
Patrick, pour terminer, quel est l'emplacement idéal pour créer son potager en carré ?
Bah évidemment, c'est au soleil. Les légumes ne poussent pas à l'ombre. Ça, on le répétera jamais suffisamment. Il faut éviter aussi les vents dominants, mais d'une manière générale pour le jardin. Et puis, placez-le de préférence aussi près que possible de la maison, parce que c'est,
oui, l'idée,
on va c'est dire que c'est un jardin de proximité.
Tout à fait.
Et quelque chose avec,
oui,
lequel vous allez.
À la limite, on est presque en train de cuisiner, paf, on sort et on.
Oui,
et
puis vous récolte. Allez être en interaction permanente avec ce carré, parce qu'il y a plein de petites choses qui y poussent, vous allez regarder. Puis, bon, n'oubliez pas aussi, même si vous avez qu'un balcon, l'idéal c'est de mettre essentiellement des aromatiques. Et là, vous avez besoin qu'il soit à côté de la cuisine.
Patrick, pour terminer, une petite sélection de livres rapidement sur le potager.
Alors, les livres d'origine qui sont ceux de Mel Barthélémieu ou de d'Anne-Marie Nagelsen sont difficiles à trouver parce qu'ils sont parus, alors l'un en 1981 et puis l'autre 2009, 2011 aussi. Donc, on arrive à en trouver sur l'Internet en occasion, mais il y en a un qui vient de sortir, alors qui n'est pas du tout sur les mêmes bases parce que lui, il parle d'un carré. Qui n'est pas un carré, d'ailleurs, de 3 mètres par 1,20 m. Et ce livre qui s'appelle Le Parfait Carré Potager, c'est aussi en anglais, Hugh Richards, chez First Edition, présente 19 légumes que vous pouvez cultiver donc dans cette partie carrée. C'est un peu une idée évolutive de cela. Le livre, il est certainement moins technique que ceux des prédécesseurs, mais c'est très très simple. Il y a beaucoup de photogestes, par exemple, pour vous aider à savoir faire la culture, et ça peut même servir d'ailleurs à ceux qui font un potager normal. Donc Le Parfait Carré Potager chez First Edition.
Parfait. On accueille tout de suite Antoine au 32-16. Bonjour Antoine, si j'arrive à le mettre à l'antenne, c'est parfait. Bonjour Antoine.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Antoine, bienvenue.
Bienvenue sur RMC Antoine.
Merci.
On vous écoute.
Alors moi, j'appelle parce qu'il y a un an, on a acheté un effrier du Japon et qu'on a planté dans le jardin. Pour l'instant, tout pousse assez bien chez nous. Et là, il est pas beau. Il est en train de...
Alors déjà, première chose, Antoine, votre région
C'est à Vannes, dans le Morbihan.
Oui, donc ça devrait pas poser vraiment de problème. Alors il n'est pas beau.
Il y a à côté de chez nous qui sont très très beaux,
oui,
avec,
oui,
des fruits. Donc voilà.
Il n'est pas beau. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben ils perdent. En fait, malgré les pousses, les jeunes pousses qu'on voit régulièrement arriver, les feuilles sont très vite tachées et puis mangées carrément. Et elles tombent très très rapidement. Donc on a été voir la pépinerie. Ça nous a indiqué de l'arroser plus, puisqu'on a fait quand même assez abondamment. Et puis là, il y a 15 jours, il y avait des superbes feuilles toutes jeunes, mais elles sont très, très vite dégradées, et puis elles tombent, quoi. Donc, dans un premier temps, on a essayé de mettre du purin d'ortie au pied, oula, ou de la bouillie bordelaise sur les feuilles.
Faut pas faire... Alors ça, je voudrais tout de suite, pas faire un coup de gueule, mais un peu, il faut que je vous tire les oreilles. On ne fait pas... Je veux dire n'importe quoi quand on ne sait pas de quoi on a à traiter.
Vous allez engueuler ma femme alors.
Non mais parce que bon, un, qu'est-ce que le purin d'ortie ? C'est essentiellement un produit naturel en fertilisation. C'est-à-dire, ouais, que vous allez apporter un nutriment et surtout des oligo-éléments qui peuvent permettre de renforcer les défenses naturelles de la plante. Bon, tout le reste que vous pouvez voir sur l'internet et où on vous raconte que il faut mettre du purin d'ortie contre les pucerons, contre ci, contre ça, ce n'est que de la foutaise et je le dis haut et clair. Bon. Qu'est-ce que la bouillie bordelaise? La bouillie bordelaise est un fongicide, c'est-à-dire un produit anti-maladie cryptogamique, donc lié à des champignons. Oui. Et quand on n'a pas décelé, identifié que la plante avait une maladie cryptogamique, ça ne sert fichtrement à rien.
À rien,
bon. D'autant plus que la bouillie bordelaise n'a une action que préventive, donc à savoir qu'une fois qu'une maladie est installée sur la plante, vous pouvez mettre toute la bouillie bordelaise que vous voulez,
d'accord,
ça ne sert plus à rien. Bon. Donc,
okay,
la démarche que vous faites aujourd'hui, à savoir de venir identifier la raison pour laquelle la plante ne pousse pas, c'est la meilleure à faire. Bon. Dans votre cas, je pense que la réponse, elle vient de l'emplacement. Il n'y a aucune raison particulière, hormis si vous avez un sol hyper lourd, compact, étouffant, etc. Ce qui m'étonnerait dans la région de Vannes, où je pense quand même que la terre est plutôt un petit peu filetante, c'est surtout l'emplacement. Donc ça veut dire que cette plante a été installée dans un endroit qui ne lui convient pas. Malheureusement, c'est pas le moment de l'arracher. Il faudra attendre la fin de saison. Il aurait fallu le faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on voit qu'une plante ne va pas bien quelque part, eh bien, il faut commencer déjà par la changer. Surtout quand c'est une jeune plantation. Donc là, dans votre cas, je vais vous demander quand même, envoyez-nous une photo, parce que je suis quand même un peu gêné par rapport au diagnostic, dans la mesure où j'ai pas d'autres précisions que il va pas trop bien. Donc, essayez de nous faire 2-3 photos pour qu'on regarde quand même exactement ce que c'est, et je vous répondrai directement sur la mail.
Voilà, merci Antoine. Vous avez énervé Patrick, Antoine.
Non, il m'a pas énervé.
Je vous félicite. Ah, ben, je le sens.
Pas lui, personnellement.
Oui. Sa femme, en tout cas. Qui disait tout à l'heure. Bon, on revient dans un instant pour la suite de ce week-end des experts jardin. Jean-François sera avec nous. Son potager, tiens, on en parlait il y a un instant, est envahi de petites araignées noires. Il aimerait savoir ce qu'il faut faire pour les éradiquer.
Caressez-les.
On va caresser les araignées? Mon Dieu. Et puis, on retrouvera notre dossier de ce samedi matin. On va évoquer les plantes mellifères, ces plantes qui attirent les insectes pollinisateurs. On en parle dans un instant. Vous avez des questions sur tous ces sujets? 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient tout de suite.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Maya l'abeille. C'est un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hein. La petite Maya. Pourquoi on entend Maya l'abeille? Parce que dans un instant, on va parler des plantes mellifères, les amis. Eh oui, comment attirer toutes ces plantes qui peuvent faire venir des insectes pollinisateurs? On va en parler dans un instant. Mais auparavant, c'est Jean-François qui nous attend au 32-16 et qui voulait réagir justement sur le potager. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour. Bienvenue Jean-François. On vous écoute.
On vous écoute. Avec
oui, bah, j'ai posé une petite question là. J'ai un jardin potager et je suis envahi de, et les jardins d'à côté, on est envahi par des petites araignées qui ont un abdomen blanc, des araignées minuscules. Donc, je sais pas comment les traiter, s'il faut les traiter ou pas. J'ai essayé avec du marc café, mais rien n'y fait.
Vous voulez que je gueule encore comme ce matin de... Arrêtez de croire des inepties du genre le marc de café, les coquilles d'œufs, je sais pas trop quoi encore, qui vont miraculeusement faire éloigner des insectes ou des animaux qu'on n'a pas envie, comme les araignées. Le marc de café, c'est un produit organique qui, lorsque vous l'incorporez au sol, apporte un peu de potasse ou peut également apporter, quand il est bien décomposé, un petit peu d'humus. On a tendance, dirons-nous, à le mettre sur le tas de compost. Ça apporte quasiment rien, quoi, on va dire. Bon. Mais il y a une sorte de mythe autour de ça. Donc, voilà. Mais en tous les cas, les araignées, elles sont contre-fiches et vous avez pu d'ailleurs le remarquer. Bon. Les araignées, il faut le savoir qu'en dépit de l'aspect, entre guillemets, repoussant que certains leur trouvent, sont des animaux, ce ne sont pas des insectes, mais ce sont des arthropodes qui ont 8 pattes, les insectes ayant 6 pattes, qui sont extrêmement utiles dans l'environnement, parce que ce sont pour la plupart des prédateurs. Donc, les araignées que vous avez là sont en train, naturellement, de réguler, on va dire, certaines populations d'insectes, qui sont bien entendu des insectes à leur taille, mais que vous ne voyez pas forcément, mais qui pourraient, pour certains, être nuisibles aux cultures, et notamment peut-être consommer des pontes ou des petites larves et des choses comme ça. Alors, la raison de la prolifération, j'en sais strictement rien, mais généralement, la logique veut que les populations s'équilibrent. Ça veut dire que si vous avez énormément d'araignées, c'est qu'il y a énormément de proies. Et donc, elles sont en train de, entre guillemets, de nettoyer votre jardin. Et tant que ces araignées ne vous semblent pas agressives, et il n'y a aucune raison, parce que plus l'araignée est petite et plus c'est ce qu'on appelle chélicère, c'est-à-dire c'est les parties qui pourraient éventuellement perforer votre peau si elles voulaient vous mordre, eh bien ces chélicères sont toutes petites et elles n'ont pas la puissance nécessaire pour venir vous faire du mal. Donc elles sont inoffensives et hormis, encore une fois, l'aspect que l'on craint quand on observe cela, parce qu'on dira les araignées, nanana, ben elles sont plutôt utiles à votre jardin. Donc, laissez faire la nature. De toute façon, leur population diminuera d'elle-même lorsque l'équilibre se sera produit. Et si vous avez, vous n'êtes pas le seul à avoir ces araignées, c'est qu'il y a des raisons écologiques pour que vous ayez une concentration de cette espèce-là dans votre environnement. Donc voilà. Après, on a, faut être honnête aussi, c'est pas que je voulais tourner autour du pot, on vous raconte tout ça, mais on n'a pas aujourd'hui de produits réellement efficaces et prévus pour éliminer ce type d'indésirable, si je puis dire. Parce qu'en fait, à la fois notre regard a changé, mais aussi la législation a évolué, et donc on n'a pas la possibilité de
traiter
un acaricide, par exemple, pour le jardinage d'amateurs.
Alors il y a Serge qui dit tisane de tabac pour les araignées, je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Alors la tisane de tabac est quelque chose de totalement interdit.
Ah oui.
La nicotine, alors ça aussi c'est un truc extraordinaire, la nicotine qui est un poison extrêmement toxique quand on prend la nicotine pure. Je vous rappelle, ça a été un des tout premiers insecticides qui était homologué dans les années 70 à être interdit à cause de la dangerosité. Donc le fait de faire tremper des mégots et effectivement d'obtenir une solution qui, lorsqu'elle est notamment pulvérisée sur des pucerons ou des insectes que vous voyez, est très efficace, ça les ratatine, c'est dangereux et donc vous avez normalement... Évidemment, moi je vous dis ce qui est
ce qu'il faut faire, la loi, hein.
C'est interdit. La nicotine est interdite. Après, ne confondons pas non plus les insecticides avec les acaricides. Alors, je pense que la nicotine, ça serait efficace. Mais je préférerais que notre auditeur respecte les araignées parce que je pense qu'elles ont une utilité. Il y en a énormément qui vivent dans le sol plutôt que de se dire, allez, hop, on repart à l'éradication à l'ancienne.
Parfait. 32-16 pour toutes vos questions jardin, tout comme Jean-François qu'on a eu à l'instant. Vous pouvez joindre Patrick Miolan pour parler, pourquoi pas, des plantes mellifères, hein, puisque ça va être notre sujet qu'on va aborder dans un instant. Mais auparavant, notre jeu, parce qu'aujourd'hui sur RMC, je vous offre, écoutez bien, un barbecue beef butler smoker.
Waouh !
On jardine le matin, et la récompense, c'est le barbecue pour midi. Le
smoker, ça veut dire qu'il est fumoir ?
Et j'en ai bien peur. Grille de charbon de bois.
Oui.
Facile d'utilisation et pratique. Vous pourrez vous faire plaisir pendant les beaux jours. Écoutez, j'ai vu la photo, il est très bien parce qu'en plus, il a une espèce de support où on peut poser les ingrédients
qu'on
est en train de...
Ouais.
Voilà. Donc, c'est un beau cadeau que nous vous offrons. Ce Beef Butler Smoker, donc, vous pouvez le remporter en nous envoyant dès maintenant le mot jardin par SMS au 73216. Vous tapez jardin sur votre mobile. Vous envoyez ça au 73216 et vous participerez au tirage au sort. Jardin au 73216. Bonne chance.
Votre jardin sur RMC avec Mano Mano, la référence européenne du bricolage et du jardinage en ligne.
Les abeilles.
On a sorti le top 50 des abeilles sur RMC. On fait le buzz. Après Maya, c'est Bourville avec les abeilles. Et oui, on va parler donc maintenant des plantes mellifères. C'est vrai que depuis quelques années, on constate une pénurie d'insectes pollinisateurs. Hein, Patrick, les jardiniers peuvent largement contribuer à favoriser leur présence en semant ou en plantant des espèces dites, écoutez bien, mellifères.
Oui,
c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Oui, on dit des plantes mellifères. Alors, ce ne sont pas des plantes qui fabriquent du miel. Je vous rappelle que ce sont les abeilles. Alors, c'est quoi une plante mellifère? C'est une plante qui, principalement à ses fleurs, mais il faut savoir quand même que certaines ont des bourgeons ou même le pétiole de leurs feuilles qui produisent du nectar. Et les fleurs uniquement du pollen, puisque le pollen, je rappelle, est la substance mâle fertilisante pour la plante. Donc, lorsque vous avez des fleurs qui produisent ces deux substances en quantité suffisante et accessible, parce que ce n'est pas toujours le cas, pour les abeilles et plus largement pour les insectes pollinisateurs, qui sont notamment aussi les bourdons, même les papillons aussi, eh bien, on va considérer que ce sont des plantes qui favorisent la fabrication de miel par les abeilles. Donc, du coup, mellifères. Mmh. Et puis, attention, on peut aussi considérer comme mellifères des plantes qui sont très sensibles aux attaques de pucerons, de psylles, de cochenilles, donc les insectes piqueurs-suceurs, qui, vous le savez, on en parle souvent, sécrètent par leur déjection ce qu'on appelle un miellat, qui est un liquide sucré, qui sert également à certaines abeilles, notamment pour se nourrir, mais aussi pour fabriquer un produit qu'on appelle bien aussi le miellat, et pas le miel, et que vous pouvez trouver aussi dans le commerce. Alors moi j'ai essayé, je peux vous dire, c'est bizarre comme goût.
C'est bizarre.
Mais par exemple en Corse, que vous connaissez bien François, ouais, on vend communément du miellat. Voilà, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, ces plantes mellifères sont celles qui produisent nectar et pollen.
Alors justement, ce nectar et ce pollen, ça sert à quoi aux insectes ?
Eh bien d'abord, surtout à les nourrir. Le nectar, c'est un liquide sucré. Donc c'est des glandes qu'on appelle des nectaires qui sont prélevées par l'insecte. Alors vous allez dire, ah c'est dégoûtant, mais c'est comme ça. Lorsque l'insecte mélange ce nectar à sa salive et aux sécrétions qu'il a dans son jabot, hein, c'est-à-dire il a une sorte de poche qui lui permet de concentrer le nectar, eh bien, ce mélange-là, une fois qu'il va s'être déshydraté en partie, il va donner le miel. Donc, d'où le nom de plante mellifère. Donc, c'est les plantes qui permettent la production de miel par les abeilles domestiques. Je rappelle qu'en France, on a pratiquement 1000 espèces d'abeilles sauvages, dont beaucoup ne fabriquent absolument pas de miel. Et le pollen, de son côté, lui, est extrêmement important. Alors, pas trop pour nous, même si on trouve maintenant aussi dans le commerce du pollen, parce que c'est très riche en protéines. Et c'est la principale source de protéines pour les abeilles. Et vous vous rendez compte que la quantité et la qualité des protéines qu'elles consomment va déterminer la taille et la longévité même de l'insecte. D'où l'importance, donc, de ce pollen. Donc la ruche en a vraiment besoin, parce que aussi c'est riche en acides aminés, et Monsieur Rekia va être heureux que je prononce ce nom, en antioxydants et en oligo-éléments et des vitamines. Donc voilà, ce sont les éléments nutritifs principaux pour les abeilles.
Et comment les insectes récoltent en fait toutes ces denrées précieuses, nectar et pollen ?
Alors, le nectar, l'abeille ou le papillon, parce que les papillons sont bien munis avec leur trompe. Souvent, le nectar se trouve vraiment profondément enfoui dans la fleur. Et ça, c'est aussi une stratégie de la fleur elle-même qui, en mettant la production de nectar au cœur même de sa corolle, c'est-à-dire vraiment au fond des pétales, va obliger l'insecte à pénétrer à l'intérieur de la fleur, à passer le long des étamines ou du pistil, c'est-à-dire les organes sexuels, et quand il aura pris sur son dos, parce que vous avez pu remarquer que le dos de ces insectes pollinisateurs est toujours très velu, eh bien les grains de pollen se sont accrochés à son dos, il arrive, il frotte ça sur le pistil, et qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il féconde la fleur. Mmh. Donc la production de nectar ne sert à rien à la fleur, autre qu'à tirer le pollinisateur. Et ça va très très loin, parce que même la forme elle-même de la fleur a évolué, ou on va dire coévolué, avec l'insecte. Et quand je disais que vous avez des fleurs, par exemple, en entonnoir, où le nectar est très très profond, eh bien vous avez certains insectes qui sont incapables de le pénétrer. Mmh. Vous avez même des fleurs qui doivent être déflorées, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont comme vierges, et il faut un bourdon puissant qui vienne casser une petite membrane, de manière à ce que la fleur s'ouvre sous le bourdon et lui donne accès à ce précieux nectar.
Ce qui est dingue, c'est que le bourdon sait qu'il faut qu'il casse cette membrane pour...
Non, il le sait pas.
Ah,
il le fait d'instinct.
Il le fait d'instinct.
Parce que lui, il est attiré par le nectar, l'odeur du nectar, le sucré du nectar. Mmh. Et il va y aller à fond, il va casser l'autre.
Oui, il se dit, c'est mon frigo, quoi.
Ah, mais exactement, il va chercher sa nourriture. Et il faut savoir donc que le besoin, notamment en pollen, d'une colonie d'abeilles est énorme, entre 20 et 40 kilos pour une ruche. Mmh. Donc ils sont en train de travailler en permanence, donc avec leurs pattes, elles vont brosser un petit peu les grains de pollen et elles vont ajouter un petit peu de nectar pour former les fameuses pelotes que vous voyez sur les pattes et qu'elles rapportent à la ruche.
Patrick, pour terminer, votre sélection des fleurs mellifères incontournables à posséder dans son jardin.
Alors, la lavande, la bourrache qui est une plante très intéressante, très jolie, mais où les abeilles sont comme des folles là-dessus. Les centaurées, les coquelicots, la pervenche, la facélie. La facélie, c'est une très jolie fleur bleue avec qu'on met en engrais vert, par exemple. Les sauges. Alors les sauges sont marrantes parce que les sauges, elles ont un label qui sert de train d'atterrissage pour les abeilles. Et quand elles se posent sur le label, vous avez les étamines, ploum, qui tombent sur le dos et qui déposent le pollen.
C'est génial.
Ah, ouais, c'est très incroyable. Très bien fou. Alors les tournesols aussi, bien entendu. Les vipérines, ça vous connaissez peut-être moins, mais ce sont des très très bonnes plantes, notamment pour le midi de la France ou sur le bord de l'océan. Alors, n'oubliez pas tout ce qui est agrumes, les citronniers, tout ça, où on fait des très très bons miels avec ça. Dans le midi, l'arbousier est très très mellifère. Les bruyères, bien entendu, le laurier. Rien une plante qu'on n'imagine pas, mais le lierre attire les abeilles. Bien. Les fleurs sont moches comme tout, mais elles sont très attractives pour les abeilles, appétissantes. Les pyracanthas qui sont en train de finir leur floraison, les seringas qui sont en fleurs en ce moment, qui sentent si bon, belles fleurs blanches, magnifiques, le sureau, alors là, oui, Troène, et puis bien entendu au potager, pourquoi pas, l'artichaut, la carotte, mais ça, il faut les laisser aller à fleurs.
Et oui.
Alors, l'artichaut, si vous récoltez pour le manger, il sert à rien pour l'abeille, puis il faut laisser la fleur s'épanouir, idem pour la carotte qui est une bisannuelle, elle fleurit la deuxième année de culture, puis toutes les plantes aromatiques. Thym, romarin, sarriette, tout ça, c'est très, très mellifère.
Il y en a beaucoup, vous l'avez compris.
Il y a plus de 200 plantes, d'ailleurs.
Dominique qui nous dit, dans mon jardin, je suis envahi d'abeilles et comme j'ai beaucoup de bourraches, vous en parliez tout à l'heure, qui sont assez envahissantes, elles adorent ça. Au passage, elles viennent aussi butiner les fleurs de tomates, courgettes, etc. Et c'est tout bon pour le jardin.
Oui, alors.
Voilà, Dominique a bien compris tout ça.
On ne va pas s'étendre, mais les tomates en ont pas besoin.
D'accord.
En fait, les tomates, elles sont ce qu'on appelle autogames, elles peuvent se faire féconder.
Mais malgré tout, les insectes peuvent venir
Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu. Alors je veux dire quand même que du 13 au 21 juin, ça sera la semaine des fleurs pour les abeilles. Donc une action qui va vous permettre d'obtenir dans les magasins gratuitement des sachets de graines de fleurs pour les abeilles, parce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait 1 milliard de fleurs qui soient dans les jardins privés pour attirer nos abeilles.
Patrick, on revient dans un instant. Joël va nous parler de son citronnier. On retrouvera aussi la météo du jardinier, vos coups de cœur. Et comme Joël qu'on va accueillir dans un instant, vous pouvez nous joindre au 3216 pour poser vos questions jardin. 3216 ou bien l'appli RMC sur votre smartphone. Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone s'il vous plaît pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, nous sommes de retour, 6h48, le week-end des experts, le jardin. J'ai toujours ce super barbecue, Beef Butler Smoker, grill charbon de bois à vous offrir. Profitez-en, c'est simple, il suffit de participer avec nous par SMS. Il est facile d'utilisation, pratique. Il y a aussi sa petite table qui vous permet de stocker vos ingrédients. Voilà, une petite table de travail, c'est bien pratique quand on fait un barbecue. Donc ce barbecue, nous vous l'offrons par SMS. Vous nous envoyez jardin au 732-16 dès maintenant. Attention, SMS surtaxé bien sûr. Jardin par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance. Avant de retrouver la météo du jardinier, c'est Joël qu'on accueille maintenant. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bonjour Joël.
Bonjour Patrick.
Bienvenue.
Je tenais d'abord à vous féliciter pour vos bons conseils.
Merci.
Parce que nous sommes des amateurs et vous êtes d'excellents conseils.
Bah écoutez, je suis ravi. Je vais essayer de vous en donner un bon maintenant.
Voilà. Et alors,
qu'est-ce qui vous arrive?
Est-ce que je peux faire une historique de ce citronnier, si vous le permettez,
oui.
Ça sera court. Et il était exposé en plein nord sur un balcon, sans soleil.
Dans quelle région?
La personne me l'a confié parce que je lui avais proposé une meilleure vie à mon domicile, dans une maison. Eh bien, je me suis trompé parce que ma négligence a fait que ce citronnier a connu le gel, la sécheresse, et peine m'est arrivée de le tailler en disant, sa durée de vie a cessé. Eh bien, la nature fait les bonnes choses. Et ce citronnier s'est remis à faire des pousses. Et puis, par contre, je me suis aperçu qu'il y avait des doubles feuilles et il ne fleurissait plus. Par contre, l'étant stocké dans une véranda, il s'est développé et j'ai décidé de le mettre en terre, plein sud et à l'abri du vent. Et il s'est développé, mais alors magnifiquement, sauf qu'il ne produit plus de fleurs. Et à l'heure où je vous parle, je me suis aperçu en bas d'un rameau, trois fleurs de qui me semblent être les mêmes qu'avant. Alors est-ce que je ose espérer qu'il va produire de nouveau des fleurs et des citrons, ou dois-je envisager une greffe ?
Vous êtes dans quelle région ?
Dans l'Ardèche.
Mais dans l'Ardèche, on ne met pas les citronniers en pleine terre.
Alors, je vous l'accorde, je l'ai mis vraiment à l'abri du vent du nord. Il est exposé plein sud, est dans un angle.
Oui, mais un citronnier, j'en ai déjà parlé très souvent sur l'antenne, à partir de moins 3 degrés, il y a des dégâts irréversibles sur un citronnier. Or, dans l'Ardèche, si je ne me trompe pas, moins 3 degrés, en hiver, c'est rien du tout.
Rien du tout.
Donc, vous allez... Enfin, on a eu la chance cette année... d'avoir un hiver exceptionnellement
peut-être
doux.
Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de moins 3 cette année en Ardèche.
Mais on va dire statistiquement, votre citronnier n'a strictement aucune chance de survie. Donc il faut bien le dire. Donc moi, ce que je ferais, évidemment, là, il est là, en pleine terre, en ce moment, en plus, il commence à vous faire des petites fleurs, ça veut dire qu'il est plutôt pas trop mal. Mais à la fin de la saison, c'est-à-dire, allez, avant la première gelée, vers le 15 octobre, vous allez l'arracher soigneusement,
le remettre dans
un très grand pot pour le faire passer l'hiver dans la véranda. Ensuite, l'année prochaine, au printemps, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, à ce moment-là, vous pourrez le replacer exactement dans l'endroit où vous l'avez mis, parce qu'a priori,
toujours dans ce pot, en fait.
Oui, dans ce grand pot.
Ouais.
Parce que la plante... Oui, parce que si vous dépotez, arrachez, machin, etc., c'est pas bon. Donc là, vous allez simplement faire un mouvement, mais si vous l'hivernez pas sous abri, il est fichu.
Et oui, bien sûr, en Ardèche, bien sûr, c'est pas la patrie du citronnier. Merci en tout cas, Joël, pour votre appel. La météo du jardinier, Patrick. On a eu une semaine idéale pour le jardinier, même s'il a fait très chaud. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ?
Alors déjà, un dicton très intéressant. À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce été joyeux.
Ah.
Donc, a priori, il va faire beau aujourd'hui. On peut espérer donc que les jours qui viennent vont l'être. Et d'ailleurs, si je veux simplifier la météo de la semaine, c'est soleil, plus encore soleil, avec des températures qui sont relativement basses par rapport à la semaine précédente ce week-end, mais qui, on va dire, vont gagner entre 1 et 2 degrés tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Alors, il y a une chose aussi au niveau des dictons qui est intéressante. Sème tes haricots à la Saint-Didier et prépare un grand panier. C'est le moment de mettre les haricots en terre. Nous sommes au top pour ces légumes-là, donc pensez-y. Pareil, on peut aussi semer les céleris, les chicorées, c'est bien. Tout ce que vous allez pouvoir faire en jardinage, c'est le bon moment. Donc, mon cher ami Christian, qui vient d'arriver dans le studio et que je salue, va vous parler de véranda. Eh bien, vous avez plus besoin de laisser les plantes à l'intérieur de la véranda. Nous avons cette semaine nous sorti les orchidées qui étaient. Alors, les orchidées, faut qu'elles ne soient pas fleuries. Vous les sortez quand elles sont uniquement en feuilles, mais la plupart vont bien apprécier le fait d'être sous un petit couvert. De feuillage pendant tout l'été à l'extérieur, donc voilà des choses qu'on fait maintenant. Vous pouvez enlever évidemment toutes les protections des tomates, des melons, etc. pour leur faire bénéficier le soleil, mais comme je vous dis que c'est une semaine de soleil plus soleil, et ben c'est une semaine d'arrosage plus arrosage.
Bon, d'accord, donc on arrose tous les jours?
Ah non parce que là la semaine dernière on a eu 29 à Paris. Alors il faut savoir une chose qui est intéressante sur cette semaine, c'est qu'on aura beaucoup plus chaud dans l'Île-de-France, par exemple, que sur la Méditerranée.
C'est dingue, ça.
On va avoir jeudi, je pense, 27-28 degrés sur l'Île-de-France. On aura 23, même dans votre Corse chérie. Vous voyez, donc il y a plus de chaleur dans le nord, Donc ce qui veut dire aussi, comme on n'est pas tellement habitué à ça et ni la végétation, eh bien il faudra plus arroser. On va dire qu'à partir de 25 degrés, vous arrosez tous les deux jours. Quand la température dépasse 28, vous pouvez arroser tous les soirs.
Parfait. Patrick, on termine avec votre coup de gueule. Vous êtes allé en jardinerie cette semaine.
Ah oui.
Et ça vous a énervé.
Jardinerie et magasin de bricolage. J'avoue, j'ai fait deux enseignes de chaque. Et dans les deux enseignes de chaque, j'ai trouvé le même bazar. Plus aucune organisation. On laisse le client se débrouiller avec son chariot. Il n'y a plus aucune personne qui vous nettoie votre chariot. Alors bien sûr, il y a du gel hydroalcoolique. Vous pouvez vous débrouiller. Mais je suis désolé, c'est pas sérieux. Pendant toute la période de confinement, il y avait les distanciations, un nombre de chariots limité par rapport à la capacité du magasin. On vous le nettoyait.
Enfin, vous voulez dire par là qu'il y a un relâchement?
Oh, mais totalement.
À la fois des clients et des organisations,
oui, mais bien
des
sûr,
magasins.
Mais parce que quand l'organisation est mal fichue, bah, le client il se lâche. Et ce que je veux dire, c'est particulièrement dommage, parce que si les préfets mettent leur nez là-dedans et se rendent compte que c'est la gabegie, on va vous rebloquer et vous pourrez toujours pleurer en disant « Ah bah oui, mais je fais pas mon boulot ». Oui, bah il faut faire le boulot aujourd'hui sérieusement en respectant les règles de sécurité qui ont été édictées. Voilà. Donc simplement, je voulais dire ça. Alors la deuxième chose aussi, c'est qu'évidemment il y a des gros problèmes d'approvisionnement et que l'on n'est pas dans une habitude, on va dire, de magasins qui sont chargés de choses pour vous donner envie, et notamment par exemple en jardinerie, il n'y a pas beaucoup de meubles de jardin, il n'y a pas tous les barbecues qu'on pourrait imaginer, etc. Bah, tout simplement parce que les industriels, eux, ont arrêté aussi leur fabrication. Oui. Il va falloir être un petit peu...
Il y a une inertie en fait avant que tout revienne.
Il faut être un peu patient, et comme on n'aura certainement pas l'occasion d'aller très très loin en vacances, bah, pourquoi pas passer nos vacances chez nous, parce que je vous rappelle, un jardin, ça fait du bien, et jardiner, ça fait du bien.
Et bien sûr. Merci Patrick, merci, on se retrouve la semaine prochaine, 6h-7h.
Je vous embrasse, les jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine, et je laisse le micro à monsieur Christian Pesset.
Merci monsieur Mioumiou.
Christian, alors oui. on va monter votre micro parce que j'ai l'impression que vous êtes au fond d'un tunnel.
Oui.
Christian, on va se retrouver dans quelques instants. On va parler véranda, tiens.
Oui, on va parler véranda parce que ça s'est révélé pour beaucoup, et pour moi en particulier, un très bon espace pour travailler. Bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il fait beau,
chaud.
Donc, on va justement parler des moyens aussi de réduire la température dans une véranda. Mais il y a certains équipements aussi à faire. Et puis, on parlera même un peu législation sur le travail à domicile.
Eh bien, voilà.
Les plantes?
Non, pas des plantes.
Mais moi, je cultive des plantes dans ma véranda, bon sang.
Mais tu as dit tout à l'heure qu'il fallait les sortir. Donc, elles sont toutes sorties maintenant. Moi, j'ai plus une plante dans ma véranda. Si, j'ai gardé mes cactus.
On peut se faire une véranda avec une partie plante et une partie télétravail. Voilà.
Ou deux vérandas.
Ah oui, alors là, il faut avoir un peu plus de place.
Sera ravi.
Allez, la météo, les infos, et ça sera la maison avec Christian PC. Vos questions, véranda, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.